bienvenue sur les ondes de la radio HDR et de Principe Actif. Nous sommes le jeudi 23 janvier. Et puis voilà, comme vous le savez, comme tous les jeudis, vous avez rendez-vous avec vos chroniques, vos sorties culturelles. Et il y a une chronique qui est de retour, qui est mon grand mot à moi, assurée par Monsieur Damien, qui a été se balader dans le quartier de Gramont. Et pour vous donner des nouvelles de Gramont, bah oui. Et puis voilà, dans le studio avec moi, donc il y a Doc Monceau, comme tous les jeudis. Donc voilà, vous connaissez déjà cette chronique Instant d'Histoire qui nous fait voyager dans le temps et dans l'espace. Et pour nous mettre un peu dans la tête et quelquefois nous en enlever un peu aussi quelques idées. Et puis voilà, c'est quoi d'autre, notre invité de ce jeudi, donc voilà, que vous connaissez déjà, c'est une vedette sur les hauts de Rouen. Non, je le taquine un peu, voilà. C'est Sammy Bougarne qui est le nouveau président, enfin on peut toujours lui dire, le nouveau président des clubs de foot des hauts de Rouen, mais pas que, il est aussi actif au niveau social, au niveau culturel ici, voilà, le sport c'est aussi un moyen d'insertion et il l'a bien compris. Voilà, donc, et il va nous parler du club, mais pas que, il nous parlera aussi de ce projet, donc qui est la tournée entrepreneuriat pour tous, et puis voilà, qu'est-ce que c'est, à qui c'est destiné, vous allez savoir tout ça vers 17h30. Mes amis, mes collègues qui sont autour de cette table, des stagiaires, monsieur Farès, et puis Israël, et aussi Luca qui est là, donc voilà, ils ont tous travaillé et concocté quelque chose pour vous, puis voilà, et puis le plaisir d'avoir Damien de l'autre côté pour assurer la réalisation de cette émission. Comment ça va tout le monde, monsieur? Je commence par Damien. Comment
écoute,
ça va?
Moi je suis très fatigué, mais je suis là, mon cher Osman, et je ne te cache pas que je suis très heureux que tu sois là aussi.
En tout cas, merci, c'est un plaisir. Doc Monceau, comment ça va?
Ça va.
Qu'est-ce que nous allons découvrir de cette chronique?
Normalement, c'est l'avant-dernière sur l'eugénisme.
Et bien voilà, Damien, je pense que tu seras servi.
Super, bon, en plus voilà. Là on attaque les années sympathiques, les années 30 je crois, pour l'eugénisme, c'est
avant.
Un peu l'âge d'or. Hein.
Oui, ça, c'est 20 et 30, c'est l'âge d'or.
Voilà.
Et bien voilà, l'âge d'or, c'est effectivement ça. Israël, de quoi tu veux nous parler, Israël?
Je vais vous parler des brevets du collège.
Les brevets du collège, oui. Il y a quoi avec les brevets du collège?
La date pour que les élèves de la troisième puissent se préparer vite le plus possible.
D'accord, ok. Parce que les dates, c'est trop court ou trop éloigné, c'est quoi?
C'est un peu proche.
C'est un peu proche.
Ouais, parce que c'est en juin.
Ok.
Un peu proche.
D'accord, ok. Donc voilà, donc vous allez découvrir tout ça. J'allais dire Israël deux fois. Monsieur Farès, alors c'est quoi, de quoi tu vas nous parler?
Moi, pour ce soir, pour l'agence, ce soir, j'ai des événements au Centre Malraux qui se passera vendredi et lundi.
D'accord, ok. Et nous sommes avec Lucas, donc qui nous prépare une petite chronique. J'ai pas envie de vous enlever le truc, donc je le laisse en parler.
Oui, alors le président de la République s'est emporté ce mercredi face à des policiers israéliens.
Attends, présente-la nous et ensuite.
On va découvrir tout ça.
Laisse-nous rêver un petit peu, mon cher Lucas.
Damien, quel morceau tu vas nous jouer?
Écoute, on va commencer pour se mettre un petit peu en forme là en ce long jeudi. On va s'écouter un petit Stevie Wonder avec Superstition sur le mix des cultures. We'll be right back. Superstitions de Stevie Wonder sur le mix des cultures.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Effectivement, vous êtes bien sur les ondes de la radio HDR et de Principe Actif et qu'il est 17h08 et tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos petites chroniques du début d'émission. Et donc voilà, nous allons commencer tout de suite avec Monsieur Farès qui a trouvé une petite sortie pour les gens qui veulent sortir un peu, prendre de l'air.
J'ai trouvé une sortie pour les gens des Hauts-de-Rouen. J'en ai trouvé exactement deux qui se passent au Centre André-le-Marot. Pour l'agenda de ce soir, le Centre André-le-Marot organise demain, vendredi 24 janvier 2020, de 9h à 11h, en partenariat avec le CIO, le Centre d'information d'orientation, un rendez-vous afin de parler de l'orientation et des projets des jeunes ainsi que de leurs craintes afin de trouver un projet professionnel adapté à leurs besoins ou ce qu'ils veulent faire dans la vie. Quoi. Le Centre André Malraux aussi organise le lundi 27 janvier 2020 à 14h30 un spectacle nommé Chou 20 minutes pour convaincre qui présentera une femme qui dévoilera toutes ses qualités pour vous convaincre ce lundi 27 janvier 2020 à 14h30 au Centre André Malraux.
Ben voilà, donc voilà, c'est tout pour toi, Farès.
C'est tout.
Effectivement. Et Israël, donc voilà, tu t'es intéressé aux problématiques des jeunes, donc qui se plaignent, enfin qui demandent d'avoir plus de temps pour mieux préparer leurs examens, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Effectivement, voilà.
Alors, bonjour. Moi, je vais vous parler du brevet des collèges de cette année 2020. Les épreuves du collège auront lieu le lundi et mardi 30 juin. Le diplôme national du brevet DNB est noté sur 800 points. Les élèves doivent obtenir au moins la moyenne, soit 400 points, pour décrocher le diplôme qui sanctionne la fin du collège pour pas contrôle continu et l'autre moitié grâce aux épreuves écrites. Les élèves ayant obtenu au moins 480 points, ce qui varie sur une note de 12 sur 20, se voient attribuer la mention accédée. Et ceux ayant obtenu au moins 560 points, ce qui varie sur une note de 4, 14 sur 20 se voient attribuer la mention bien. Et ce ayant obtenu au moins 640 points, ce qui varie sur une note de 16 sur 20, se voient attribuer la mention très bien. Les mentions bien et très bien donnent droit à une bourse ou un mérite au lycée sous certaines conditions. Donc je tiens à vous dire d'informer les élèves qui ont troisième de se préparer et de bien réviser car les profs arrivent à grandes pas. Merci.
Merci Israël. Donc voilà, pour les élèves qui nous écoutent, donc voilà, vous êtes avertis, préparez-vous parce que voilà, il y aura du boulot. Et monsieur Damien, alors qu'est-ce que tu nous proposes? Une petite pause musicale ou on enchaîne?
Bah écoute, moi je te proposerais bien de retrouver mon Gramont à moi. Donc je suis allé me balader ce matin à Gramont, j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques habitants. Voilà, j'ai essayé de leur demander comment ils voyaient Gramont et force est de constater qu'ils sont plutôt optimistes, mais je vous laisse écouter ça.
Bonjour madame, vous êtes habitante du quartier?
Non.
D'accord, vous venez travailler ici dans le quartier?
Oui.
Depuis combien de temps sans être indiscret?
8 ans.
Qu'est-ce que vous en pensez du quartier?
Ça va.
Vous trouvez ça joli? Le quartier Gramont, il a cette espèce d'esthétique différente du reste de la ville. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a encore des choses à faire qui vont être faites. Il y a encore des réas à faire. David Ferrand va faire une réa. Sur d'autres secteurs, il y en a encore aussi. À la place du rouge, ça, je pense qu'il y aura quelque chose de fait. Moi, je trouve que ce quartier va s'améliorer au fil des années.
Donc vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose, là, par exemple, cet immeuble dans lequel on est, là, qui a comme une esthétique assez particulière, assez à lui, qui participe aussi à cette ambiance à Gramont. Est-ce que vous pensez que ce serait bien de le rénover?
Ah bien sûr, oui, bien sûr. Pendant trop d'années, ça a été laissé. Donc aujourd'hui, c'est bon, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça va être fait en temps et ça développera plus de choses, comme sur les Hauts-de-Rouen que j'ai connues.
Et oui, on connaît bien nous aussi. Et vous avez des souvenirs du quartier Gramont, des choses qui ont évolué, qui vous restent en mémoire?
Actuellement, pas assez, parce que ça fait pas des années que je suis là. J'ai eu la démolition du rouge, Simone de Beauvoir qui est arrivée, qui a fait quand même du bien. David Ferrand, la poudrière, ça quand même, il y a quand même du bon. Je dis pas que c'est parfait, mais rien n'est parfait dans la vie. On essaye de faire au mieux pour les locataires.
Vous sentez que ça évolue pour le mieux du coup, Gramont?
Il y a encore des choses à faire. Je pense que les gens ont besoin beaucoup de commerce. Il manque des commerçants aux alentours. Il n'y a pas grand chose.
Donc vous-même, là, si vous pouviez changer une chose maintenant, vous ajouteriez des commerces?
Oui.
Quoi comme commerce, par exemple?
Pourquoi pas boucherie, boulangerie, etc. quoi. Bon, il y a une petite épicerie, certes, mais les gens auraient peut-être voulu plus grand, voire un petit centre commercial. Pourquoi pas?
Alors, comme conclusion, vous êtes contente de travailler à Gramont, qu'éventuellement même, vous seriez contente d'y vivre?
Pourquoi pas? J'ai pas de problème ici, donc je vois pas pourquoi je n'y habiterais pas. Je n'y habite pas parce que j'ai un chez-moi ailleurs, aussi en HLM, bien sûr. Hein. C'est pas parce qu'on travaille qu'on n'est pas en HLM. Mais non, moi, ça me dérangerait pas. Si c'était un petit peu plus vivant au niveau commerce.
Voilà donc cette dame qui n'habite pas Gramont mais qui passe ses journées puisqu'elle était en train actuellement donc d'entretenir les bâtiments de Habitat 76, mon cher Ousmane.
Effectivement, donc voilà, on le sait, les habitants des quartiers, donc voilà, ils sont attachés à leur territoire et qui d'une façon ou d'une autre, pour les raisons qu'on ignore, ben voilà, ils préfèrent quand même avec certains moyens, donc rester là parce que voilà, c'est leur territoire, ça fait partie de leur identité. Et là, tout de suite, on change un peu de thématique, monsieur Lucas. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé avec la visite du président en Israël?
Oui, exactement. Un président de la République s'est emporté ce mercredi face à des policiers israéliens qui bloquaient l'entrée dans l'église Sainte-Anne à Jérusalem. En quelques minutes, les images montrant Emmanuel Macron et des policiers israéliens en pleine intercation devant l'édifice ont fait le tour du monde. Elles ne sont pas sans rappeler une intercation similaire en 1996 devant un même lieu, alors que Jacques Chirac effectuait sa première visite en Israël en tant que président français. Mais pourquoi ce lieu de culte a-t-il par deux fois suscité des tensions entre un président français et la police israélienne? La réponse est liée au statut de cette église, la basilique Sainte-Anne de Jérusalem, qui se trouve dans le quartier musulman dans la ville sainte. Et c'est la présence de militaires puis de policiers israéliens dans cette enclave française offerte par l'Empire ottoman à la France en 1856 qui a provoqué la colère des deux présidents français à plus de 20 ans d'écart. La France possède trois autres territoires à Jérusalem et entre autres le tombeau des rois qui fait l'objet de vives tensions entre les deux pays, signe que la présence française provoque des tensions car ce mercredi un autre incident a eu lieu quelques heures avant l'arrivée du président Macron dans un même édifice, un accrochage a opposé des forces de sécurité françaises à un membre des forces de sécurité israélienne qui voulait rentrer sans leur permission dans la basilique.
Oui, Lucas, est-ce que tout ça pour toi ne sentirait pas un petit peu la manipulation, le coup de com' peut-être ? Est-ce que M. Macron n'aurait pas voulu marcher dans les pas de M. Chirac ?
Ah ça, il préfère pas faire trop d'illusions, je pense que c'est vraiment un coup de com' et il aurait pas fallu.
Voilà qui est bien déplorable, mon cher Ousmane, je te rends la parole, excuse-moi.
Bah, juste après la petite pause musicale, bien sûr, donc voilà, merci d'avoir m'avoir permis de rebondir là-dessus. Mais après la pause musicale, bah, votre rendez-vous, l'instant d'histoire avec Doc Manceau.
Et donc en attendant, on va retrouver le morceau I Like It du groupe The Emotions sur le mix des cultures. Emotions avec I Like It sur le mix des cultures radio HDR.
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Il est 17h18, on est en retard de 3 minutes, mais Doc Manceau est là, il est toujours à l'heure. Donc voilà, l'instant d'histoire, c'est tout de suite avec Doc Manceau.
Donc on avait vu un peu l'eugénisme en Europe et un peu aux États-Unis, mais on va continuer aux États-Unis. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, les vrais partisans de l'eugénisme, pour eux, pour l'élevage sélectif de l'espèce humaine, doit être dirigé sur sa propre évolution. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un stade supérieur, génétique. Et en fait, à l'époque, se développe déjà une autre idée, mais ça c'est dû à la diffusion de certains ouvrages et certaines idées. Certains d'entre eux pensent qu'il y a une supériorité des peuples nordiques, germaniques et anglo-saxons.
On y vient.
Tout doucement. Ce qui va en fait motiver certains politiques dans certains États aux États-Unis à carrément édicter des lois anti-métissage. Et plus surprenant, il faut savoir que des intellectuels afro-américains étaient pour. Comme Webb Dubois, Thomas Watts Turner, qui eux pensaient qu'en fait il fallait prendre la meilleure sélection des Noirs, qui serait aussi bon que les Blancs, afin de faire en sorte que leur progéniture ne soit plus, en gros, n'ait plus de tare morale ou physique. Vous voyez que ce n'était pas partagé que par une partie de la population. Mais là, on parle du monde intellectuel de l'époque et qui était tous en vue. Très bien vu, d'ailleurs. Mais en fait, alors, le mouvement eugéniste américain, lui, est financé, en fait, c'est pour ça qu'il voulait en venir là, par plusieurs instituts et fondations, Carnegie, Rockefeller, Henri Harriman, et beaucoup d'autres, d'ailleurs. Et en fait, à l'époque, on fournit même un fonds d'aide à la création du Race Bertrand Foundation, qui, en fait, va créer une espèce de planning familial très particulier. Et on va même créer le héros. R.O., le Eugenic Record Office, qui lui fait des enregistrements. Et on va même commencer à développer une politique familiale très, très particulière dans certains états des États-Unis à l'époque, on est en 1910-1911. Et ben en fait, on voit, c'est Charles de Voirpaint, biologiste célèbre et très réputé à l'époque. Et ben en fait, par plusieurs fondations, va faire en sorte que il y ait non seulement des familles modèles, mais dans ces familles modèles, dans certains états, on va même autoriser la polygamie. D'accord. Vu que c'est la meilleure famille, le meilleur reproducteur ou la meilleure reproductrice, et bah, faut faire avec.
C'est quelque chose qui s'est repris un peu par les nazis aussi par la suite, peut-être
tout
pas vraiment la polygamie, mais en tout cas...
Peut-être qu'il n'y a pas internet, mais les livres sont diffusés, les idées, les conférences, et en fait à partir de là, l'Héro devient l'organisation la plus importante aux États-Unis, qui va même pousser jusqu'à au paroxysme qu'il faut exclure tout ce qui est inapte.
Là, pour le coup, aux États-Unis, ça vient aussi d'un certain intérêt économique passé, peut-être sur l'esclavage. On avait peut-être besoin de se légitimer certaines choses.
Plus que ça, parce que un certain Hall, Dr Hall, qui lui avait dans l'idée que, en fait, lui, il va mourir dans les années 20 d'ailleurs, lui va même pousser en disant que du fait de la guerre de sécession, les meilleurs hommes sont morts, donc il ne restait que des dégénérés, des handicapés, des malades mentaux et autres. Ce qui a créé une dégénérescence, entre guillemets, dans la race. Bien vu de la part d'un peuple qui lui-même a exterminé un autre peuple. Mais, en fait, juste après, au sortir de la Première Guerre mondiale, il va nous ressortir une des plus belles. Nous avons envoyé nos meilleurs éléments à la guerre et ils sont morts. Nous avons laissé les exclus, les asociaux sur le terrain. Donc il faut y remédier très vite.
Mais finalement, c'est un monsieur qui aurait pu être en faveur de l'immigration, en fait.
Eh bien, en fait, non. Justement, il a écrit un livre en 1919.
Je sais pas pourquoi je m'en doutais un peu.
En fait, c'est pas qu'il est en faveur. Il est en faveur d'une immigration choisie des meilleurs éléments.
Bon, bah oui, finalement, voilà. Donc il était plus ou moins, après, sous un certain regard.
Voilà. Donc il fallait, les autres ne voulaient pas. Et en fait, Davenport reprend la même idée et en fait vont faire en sorte que, à l'époque, aux États-Unis, vont s'ouvrir des centres de stérilisation.
Ah oh, d'accord,
bon, contrainte.
Carrément, ouais. Oui, on s'en doute, oui.
Ce qui est assez violent parce qu'en fait, tous ceux qui étaient anormaux, les malades mentaux, les handicapés, les nains, les jeunes de petite taille aussi, considérant que c'était une dégénérescence de la race.
C'est charmant.
Même des pasteurs et vont soutenir en disant oui, mais comme ils ont leurs aïeux ont du péché, c'est le prix du péché. Donc voilà, d'autres seront contre. Donc c'est pour ça que ça va commencer. Alors à l'époque, il faut savoir que parmi les eugénistes, il y a deux catégories distinctes. La première qui est plus issue de la psychiatrie, de la psychologie, qui considère que tout est génétique. Et une autre qui est plus du corps social et de la sociologie, qui va dire non, il y a le génétique certes, mais il y a aussi les facteurs sociaux. Et à la même époque, en fait, là on va voir avec Godard, G-O-2-D-A-R-D, Henri, qui en fait une autre idée se développe, c'est qu'en fait, mais on doit éliminer les gens qui sont inaptes ou physiquement ou mentalement, car ça coûte cher. Économiquement, à entretenir.
Ah bah oui, j'imagine, oui.
Donc là, le facteur économique.
J'ai un petit problème de casque pour ne rien vous cacher.
Donc là, en fait, on voit bien que là, ça commence à arriver. Et surtout, ce qui peut surprendre pour certains, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a défendu toutes ces idées. C'est pour le monde des écologistes et de l'environnement, normalement ils doivent le connaître parce qu'il a écrit des livres très intéressants sur le climat et autres. Madison Grant, qui lui était en faveur de toute cette politique, qui peut surprendre parfois. Mais pour lui, c'était aussi un facteur écologiste et de l'environnement. La surpopulation, il fallait absolument la stopper.
Est-ce que c'est pas une légende, la surpopulation? On pourrait carrément faire une série d'émissions, Doc Monceau. Mmh.
Ah! Et par exemple, Davenport, lui, était complètement en faveur de la restriction à l'immigration et à la stérilisation comme méthode primaire. C'est un bel départ.
Et comment est-ce qu'on peut, si je peux me permettre d'interrompre avec une question, comment est-ce qu'on peut être américain et être en soutien à une forme de pureté de la race alors que c'est un pays qui, par définition, est issu de l'immigration, des éléments exclus de l'Europe?
Justement, toute cette mythologie qui se sont, du moins, pas totalement inventées. Par exemple, à l'époque, il y avait la traduction des grands mythes nordiques, les Eddas, mais en fait, les Eddas ont été présentés comme des récits germaniques. Et il y avait une mythologie autour du peuple germanique qui traînait déjà à travers le monde. Hein. Pas oublier que le parti nazi américain va être créé très vite aussi. Aussi vite que le parti nazi allemand d'ailleurs. Et en fait, c'est cette mythologie qui dit qu'il y a un homme supérieur, et cet homme supérieur, il est blanc, il est nordique, Il doit avoir une stature. Donc toute une mythologie qui est en train de se créer.
J'ai l'impression que pour un certain nombre de penseurs de cette vision des choses, l'homme supérieur, c'est toujours celui qui leur est semblable.
Oui, non seulement qui leur est semblable, mais qui n'a pas forcément de nation. Il n'y a pas d'idéologie nationaliste.
C'est le peuple, l'ethnie au-dessus de la nation, en fait.
Alors, plus que de l'ethnie, parce qu'en fait, par exemple, justement, avec Davenport, on va même voir qu'il y a l'idée que la terre et le sang sont liés. Ce qui est très paradoxal aux États-Unis, comme je dis, pour un peuple envahisseur.
Ça, c'est sûr.
Mais en fait, c'est cette idée-là qui est vraiment développée. Et en fait, non seulement c'est développé, mais en fait, toutes ces idées-là, on va les retrouver quelques années plus tard.
Ah oui.
Et en fait, ces idées-là qu'on trouve là sont développées en France, mais en France, curieusement, le fait d'enfermer les gens et les stériliser, à part dans des cas marginaux, on y a échappé.
Mais pas pour des raisons morales, on en parlait un petit peu la semaine dernière, je crois.
Voilà, c'est plus des questions pratiques et autres, mais on voit bien qu'il y avait aussi une résistance, parce qu'en fait, l'idée eugénique absolue, il y avait un frein en France par rapport à d'autres pays scandinaves ou les Pays-Bas qui, eux, ont eu les premiers camps de stérilisation en 1921.
Oui, est-ce que c'est pas resté un peu longtemps, cette histoire de stérilisation dans les pays scandinaves?
Oui, très longtemps. Je crois que les derniers, c'est des années 60.
Ouais.
Donc, en fait, et alors, pourquoi je vous dis, Grant, lui, va favoriser, en fait, tous les procédés qui sont liés à la discrimination, une ségrégation réelle, qui d'ailleurs est partagé par beaucoup d'intellectuels afro-américains qui eux-mêmes voulaient une ségrégation entre les blancs et les noirs.
Ouais.
Alors cette ségrégation n'est pas venue de la Nation of Islam qui vient un peu plus tard, mais vient de pasteurs protestants, noirs américains, qui disaient qu'il fallait que les noirs se réapproprient leur histoire et leur ethnie avant de pouvoir imaginer qu'il puisse y avoir un métissage. Donc en fait, il y a une espèce de convergence entre les deux clans.
Alors je ne suis pas expert de la question, en fait, bon... pas expert non plus, mais c'est vrai que je l'ai un peu étudié. Pourtant, ça paraît un peu absurde de parler d'ethnie dans les communautés noires américaines, en ce que les noirs américains sont issus de communautés d'esclaves, ou c'est pas forcément
ils
évident
sont en train
de...
Comme pour les Américains, entre guillemets blancs, ils se construisent une mythologie. C'est toute une mythologie que chacun se forge de son côté. C'est pour ça que c'est intéressant, surtout l'eugénisme aux États-Unis. Donc, dans les communautés américaines universitaires, donc l'eugénisme fait... C'est son âge d'or absolu. Plus de 376 cours distincts qu'on pouvait distinguer dans les écoles du premier plan des États-Unis, Harvard et toutes les autres, avec 20 000 étudiants qui suivaient dès la première année ce cursus. Donc, le cursus, avec les idées qu'il y avait, imaginez ce que ça a pu donner dans les années 20, 30, 40 pour le Ku Klux Klan et d'autres organisations plus ou moins racialistes.
Oui, on peut dire que sur la question, les États-Unis ont toujours été en pointe.
À l'époque, ils étaient énormément en pointe. Mais en fait, non seulement il va exister tout ce réseau d'universités, il y a quand même une opposition. C'est ce fameux eugénisme social, en réalité, qui vont être taxés de communistes à une époque donnée. Car pour eux, oui, il y a les gènes, mais il y a aussi la société qui joue. Et le facteur social, c'est lui qui est dégradant pour la société. C'est pas le gène dans lui-même. Imaginez deux confrontations, non. Les eugénistes sociaux sont minoritaires. C'est pas eux qui ont la grande opinion de tout le monde. Et en fait, donc ils vont enquêter, ils vont créer des statistiques, ils verront que en fait les gens ceux qui se reproduisent entre guillemets le plus, ça c'est leur vocabulaire, ce sont les marginaux pour eux, donc les inaptes, les gens qui sont socialement déclassés, les alcooliques, quelques drogués à droite à gauche, majoritairement les hispaniques et les noirs qu'on essaie encore de recataloguer dans des circonstances très particulières, et toujours ces fameux handicapés et malades mentaux qu'on essaie toujours d'enfermer, de stériliser le plus possible. Mais l'eugénisme va aussi toucher le monde féminin, et vont se prononcer, alors certains vont se prononcer pour et d'autres contre. Par exemple, le National Federal Woman Club, lui, est plutôt pour, mais sent quand même qu'il y a des dérives qui sont en train de se produire et qu'on devrait peut-être assouplir toute cette législation. Et à la même époque, c'est en Allemagne que justement l'eugénisme allemand se développe le plus brutalement possible.
Ça.
Et parce qu'en Allemagne, on découvre en même temps. Ils redécouvrent leur histoire, le sortir de la guerre, de la Première Guerre mondiale est assez brutal pour les Allemands. Crise économique, ils sont à la limite de la guerre civile. En même temps, on se réapproprie une histoire mythifiée, on redécouvre les runes. Et l'EDA qui est en train de se propager un peu partout, et surtout la traduction de certains ouvrages comme Zarathoustra, mais le vrai texte, parce que Nietzsche en fera l'éloge, et surtout parce que dans le vrai texte de Zarathoustra, qui est la Zingue Avesta, qui est un livre religieux à la base, il y a une longue prénégation sur le surhomme.
Ouais. Et là, ça vient. Tout d'un coup, on peut l'interpréter d'autres façons.
Oui, sachant que ceux qui se faisaient appeler les Arias, les Ariens, ce sont en réalité les Perses.
Ben oui, justement, ça c'est une question intéressante. Notamment, bon, là, on dérive encore un petit peu, mais c'est un sujet foisonnant. Cette Svatiska, la fameuse croix des nazis, vient d'Inde, si je ne m'abuse. Oui. Et les peuples ariens, c'est les peuples indo-européens.
Oui.
Quel rapport avec l'Inde dans tout
justement,
ça? Ce ne sont pas forcément nordiques, les Ariens.
Non, mais alors dans l'Allemagne, en fait, il faut savoir qu'il y avait aussi un mouvement ésotérique et occulte qui était mêlé à l'eugénisme, en plus de la psychiatrie. Donc imaginez un peu, d'ailleurs, faut pas oublier que Rodolphe Hess, qui est né en Égypte, au Caire, faisait partie d'une société secrète qui était eugéniste et à la fois occultiste, et qui admirait justement les Indo-Européens parce que c'est la race des seigneurs.
Ouais, comme ça a beaucoup inspiré le nazisme, on pourrait limite faire une émission sur l'Annonerbe, tellement c'est plein d'absurdités historiques incroyables, la lance du destin, tout ça.
Moi, j'ai une question pour Doc. Est-ce que la naissance des nazis, de l'état des nazis, ça a pas séduit tous ces penseurs, tous ces grands penseurs de cette vision de l'homme évolué?
Bah, la plupart de ceux que je viens de parler vont mourir avant que le régime nazi soit né.
Ah, d'accord.
C'est pour ça que j'ai parlé d'eux. Parce que c'est quasiment eux les inspirateurs, vu que, pour ceux qui l'ont lu, mais je pense qu'ils ne sont pas nombreux, dans Mein Kampf d'Adolf Hitler, ils citent certains eugénistes américains.
Mais ils étaient morts avant.
Ils étaient bien morts avant. D'accord. Quelques-uns étaient encore vivants. Comme Prescott Hall, lui, il meurt en 1921. Alors que lui, il était pour partisan de la stérilisation et de l'enfermement. Et
il ne sera pas en plus sans avoir certaines sympathies de la part de bon nombre de citoyens américains.
Oui, c'est pour ça que dès 1934-35, on voit un noyau dur se créer qui se détache du Ku Klux Klan, qui se fera appeler le Parti nazi américain. Ou le Parti nazi anglais, tout doucement.
C'est-à-dire que c'est des gens par rapport à qui le Ku Klux Klan est plutôt modéré.
Voilà, on va dire ça.
Ça doit être toute une soirée. Si le jour où tu vas boire l'apéro avec eux, ça doit être quelque chose.
Oui, mais en plus, alors, faut savoir qu'à l'époque, par exemple, Margaret Sanger, qui est une femme, à la tête du mouvement américain du contrôle des naissances. Elle est même, non seulement elle veut contrôler les naissances, mais là où son opposition va être très forte, c'est qu'elle partage une partie des idées de tous les intellectuels dont on a parlé, mais elle rejette. Et là, c'est, pour elle, c'est extrêmement radical. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle va être mal vue après. L'euthanasie programmée. La pour stérilisation, oui, mais l'euthanasie, non. L'enfant, il est né, on ne le tue pas. Mmh. Et elle, c'est ça qui, sur le quoi, en fait, elle va extrêmement rester. Et en fait, justement, elle va même défendre les femmes individuellement et non l'État qui doivent déterminer ou non d'avoir un enfant.
Donc, il y a un peu de libéralisme aussi là-dedans.
Bon, en fait, voilà, on a plein de contingences en simultané. Et la semaine prochaine, on verra justement l'eugénisme allemand et à quoi ça a mené.
Ah, ce sera certainement un grand plaisir, mon cher Ousmane.
Je suis d'accord. Donc, du coup, tu nous proposes quoi comme musique, Damien?
Je te propose Barry Brown avec Far East sur le mix des cultures.
How many youths have been killed in tribal war? Killed by Babylon, ignorant, innocent being born. Some is going to the west, oh yes, some is going to the north. Some is going to the south, uh-huh. Some is going to the far east. Far east, far east, oh yeah. Now my brothers and sisters, you better listen to me. Stop your foolish fighting, it's much more but we are losing. We've got to walk upright, oh yes, we've got to see the light. Some is going to the west, oh yes, some is going to the north. Some is going to the south, oh yes, some is going to the far east. Far east, far east. Now my brothers and sisters, you better listen to me. Stop your word foolish fighting, it's much more but we are losing. We've got to walk upright, oh yes, we've got to see.
line. Zombies is going to the west, oh yeah. Zombies is going to the north. Zombies is going to the south, oh yeah. Zombies is going to the far east. Far east. Far east. Oh, look my brothers, look what you see is going on.
Barry Brown qui nous chante Far East sur le mix des cultures.
Le Blabla Mix 99.1 et 102.4 FM.
Nous sommes de retour dans le studio de la radio HDR et de Principe Actif. Voilà, nous sommes avec notre invité, M. Samy Bougarn, le président du club de foot des Hauts-de-Rouen et aussi responsable, ou je dois dire aussi président encore deux fois. Le cumul, c'est interdit, monsieur le président.
Non, je ne cumule pas. Pas encore.
Donc voilà, et voilà un des responsables ou un responsable de ce projet qui s'appelle la tournée entrepreneuriale pour tous. Donc voilà, donc vous avez compris, qu'est-ce que c'est comme projet, Samy?
Alors, la tournée entrepreneuriale pour tous, c'est un dispositif lancé par BPI France. Alors, BPI France, c'est la banque publique d'investissement qui, depuis janvier 2019, a la responsabilité, la charge en tout cas, qui lui a été imposée par le président de la République, de reprendre un peu le volet création et accompagnement à la création d'entreprise dans les quartiers, qui était avant porté par la Caisse des dépôts et des consignations, avec le dispositif CitéLab. Donc CitéLab s'est passé à la BPI, qui a eu un peu de mal à le lancer, mais depuis quelques mois, a lancé la tournée. L'objectif de la tournée, c'est d'aller partout en France. Aujourd'hui, il y a eu 40 dates un peu partout. Et l'objectif, c'est d'être dans un quartier, dans un QPV, et de libérer un peu les énergies entrepreneuriales. C'est de faire rencontrer des créateurs d'entreprises avec des réseaux d'accompagnement, avec des spécialistes de la création, avec des banques, avec des juristes. Voilà. Et l'objectif de cette journée, c'est de sortir avec plein d'informations, un réseau, enfin, etc.
On te connaît ici sur les Hauts-de-Rouen, donc toi-même en tant que jeune entrepreneur, donc et aussi tu dirises ce club de foot aussi, donc voilà qui met du boom aussi dans ce quartier et aussi qui crée de l'espoir pour les jeunes. Comment un jeune des Hauts-de-Rouen peut être amené à diriger une telle structure à destination de tous les jeunes de la ville?
C'est un peu au gré des rencontres, des opportunités qu'on arrive à saisir. Mon parcours, moi, celui d'un jeune du quartier qui a...
C'est quoi ton parcours pour un jeune du quartier?
Mon parcours, alors moi j'ai fait un bac pro, j'ai fait toute ma scolarité ici, sur les Hauts, donc collège Boieldieu, ensuite lycée Flaubert. Donc j'ai fait un BEP comptabilité, puis un bac pro comptabilité. À la suite de ça, j'ai eu cette opportunité assez incroyable d'entrer dans une école de commerce. Après un bac pro, c'est pas souvent le chemin le plus facile, mais avec un dispositif qui s'appelait Tremplin pour réussir, qui était porté et financé par Ferrero France. L'objectif, c'était un peu une classe de passerelle, de remise à niveau. Et à la fin de cette année, on passait les concours pour intégrer l'école. Donc j'ai intégré cette école, j'ai fait un bachelor in retail management, donc dans la grande distribution. Et ensuite, j'ai fait un master of science. À la suite de ça, j'ai intégré un cabinet d'audit financier à Paris qui s'appelle EY. Et en parallèle de ça, j'ai entrepris. Donc ce projet pour lequel je suis déjà venu
bien
à la radio.
Bien sûr, mais ça ne nous dérange pas de nous parler un peu vite fait.
Il s'appelle Wikix. Wikix, c'est une social marketplace pour les passionnés de sneakers. Donc de basket, on met en relation les acheteurs et les vendeurs. L'objectif, c'est de fédérer toute une communauté de passionnés, d'amoureux de la culture sneaker.
Effectivement. Alors, on va revenir à la tournée entrepreneuriat pour tous. Donc, comme le nom le dit que c'est pour tous, est-ce que c'est... venez comme vous êtes.
Exactement.
J'ai une idée et je ne sais pas comment faire et je viens y rencontrer. C'est comment?
Une idée ou pas, l'objectif, c'est vraiment de venir de découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat à tous les stades, que ce soit juste envie de devenir entrepreneur ou avoir une idée, mais je ne sais pas trop par quoi commencer, parce que c'est toujours un peu la difficulté au début. Qui aller voir? Comment se faire accompagner? On sait que c'est un parcours du combattant, l'entrepreneuriat. On est souvent baladé de chambre de commerce à grève du tribunal, à juriste, à comptable. L'objectif, c'est de venir et de rencontrer un peu tout le monde. Il y aura, comme je vous disais, des cabinets comptables, des juristes, il y aura la CCI, avec le dispositif Je monte ma boîte. Il y aura des, une banque qui va animer un atelier entrepreneuriat au féminin. Il y a un dispositif d'accompagnement aussi dans l'ESS, donc l'entrepreneuriat social et solidaire. Il y aura des personnes qui vont venir pitcher, des entrepreneurs inspirants, mm-hmm. qui vont raconter leur parcours. On aura Franck Renaudin. Franck Renaudin, c'est le PDG, le président de l'ONG Entrepreneurs du Monde, mm-hmm. qui est à côté de Lyon, et qui est venu sur Rouen pour un nouveau projet qui s'appelle Un Toit vers l'Emploi. C'est des tiny houses qui sont présentes aujourd'hui, là, il y en a deux qui sont arrivées. C'est en tout cas un programme d'insertion et d'accompagnement, en tout cas au logement, pour les personnes sans abri. Donc il va venir pitcher. On aura aussi Bakary Camara, okay. Bakary qui est le fondateur de Tip Top, qui est devenu maintenant une superstar depuis la semaine dernière avec son passage sur M6 dans Qui veut être mon associé. Uh-huh. Donc il sera là aussi pour raconter un peu son parcours de sa première boutique à Rouen il y a quelques années jusqu'à aujourd'hui le protège Tibia connecté, oui. Pour tous. Donc
je l'ai vu. En tout cas, félicitations à lui. Alors donc est-ce que depuis le lancement du projet, tu as déjà rencontré les premières jeunes ou jeunes femmes avec leur projet? Est-ce que tu as déjà rencontré?
Exactement. Alors, en fait, ma casquette de chef de projet CityLab me permet d'accompagner tout au long de l'année des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs. Mmh. Donc, ils seront présents également. Donc, voilà, ces personnes que je veux pousser. Mais on l'a énormément diffusé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On aimerait avoir beaucoup plus de personnes qui viennent, qu'on ne connaît pas encore. Justement, c'est aussi pour nous un événement dans lequel on pourra capter ces personnes, essayer de les accompagner au mieux. Alors, j'espère qu'il y aura énormément de personnes des quartiers, que ce soit des Hauts-de-Rouen, de Grammont ou d'ailleurs, parce que ça nous tient à cœur, c'est un peu notre ADN d'aider ces personnes et peut-être en tout cas, et aussi montrer au niveau national, donc à la BPI, qu'à Rouen, on a une force dans ces quartiers, devant une vraie énergie pour entreprendre des choses et de leur dire, voilà, il faut porter un dispositif d'accompagnement, un programme d'accompagnement pour aller plus loin, mettre de l'argent ici, nous on est prêts.
Et concrètement, c'est un jeune qui vient avec son projet déjà écrit, donc il a des difficultés pour trouver, par exemple, la CCI ou des choses comme ça. Alors, quelle serait l'aide qu'il est susceptible de l'avoir ces rencontres?
Ça va être vraiment du mentorat, du coaching. Vraiment, c'est essayer d'avoir une personne un peu centrale pour les orienter, éviter de les balader de droite à gauche, en tout cas, voilà. Après, voilà, faut pas se leurrer. Si on vient uniquement chercher des fonds, bah, on les trouvera pas forcément. En tout cas, on sait que l'accès au capital est un peu, en France, un peu inégal. Hein, donc, on le sait. Quand on a l'habitude, en tout cas, d'aller pitcher des projets ou d'aller présenter des projets devant des investisseurs ou autres, c'est compliqué. On parle souvent de love money ou de love and family money. Mais voilà, j'ai envie de dire, ici, en tout cas, dans notre environnement, il y a beaucoup de love. Mais il n'y a pas beaucoup de monnaie. Donc d'aller dire à maman ou à des amis, mets-moi 10 000 euros, investis 10 000 euros de capital. 10 000 euros, ça représente quasiment un an de salaire. Donc on sait que c'est compliqué. Donc voilà, c'est trouver des alternatives aussi. Et après, il y a des concours. Et donc il y aura une table ronde sur les concours entrepreneuriaux. On sait qu'il y a des concours qui existent. Alors je suis bien placé pour en parler. J'en ai gagné quelques-uns.
Ah, justement,
toi aussi, Ousmane.
Je t'attendais au tournant. Il fut le modèle.
Parce qu'il y aura bien évidemment Créactif que tu as remporté il y a quelques années, oui. qui sera présent. Donc on va présenter Créactif. On va présenter également Talent des Cités. Donc on aura Aruna Nguédé qui est un entrepreneur elbeuvien qui a remporté Talent des Cités en 2018. Il y a un autre entrepreneur elbeuvien qui a gagné cette année qui ne sera pas là malheureusement à Bédine Salle, mais il nous soutient. Donc voilà, l'objectif c'est aussi de parler des concours qui sont une première porte en tout cas vers d'autres financements.
C'est la culture d'entrepreneuriat dans les quartiers, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est. On ne voit pas ça tout le temps et tous les jours, c'est clair que voilà, donc depuis quelques années, donc voilà, ça commence à s'implanter et ça devient, et c'est quelque chose que tu connais bien, donc ces difficultés de trouver des financements, de trouver l'info que tu as besoin, enfin, ou de trouver même, de faire monter un business plan, de trouver un comptable pour avoir des conseils, et que toi qui es passé par là-bas en étant aussi jeune de ces quartiers. Alors, quels seraient les conseils que tu peux donner à ces décideurs pour mieux regarder ou mieux soutenir ces jeunes qui viennent avec plein d'espoir?
Alors je pense que déjà tout le monde ne peut pas ou tout le monde ne doit pas devenir entrepreneur. C'est sûr. Parce que souvent on y arrive pour de mauvaises raisons en entrepreneuriat. C'est parce que je trouve pas d'emploi. Donc je trouve pas d'emploi, donc je veux entreprendre. C'est pas la réponse, c'est pas la solution. Maintenant, on peut empêcher personne d'essayer. Mais il faut comprendre aussi que un entrepreneur, c'est souvent des mois ou des années sans se payer. C'est aussi beaucoup de désillusions, c'est aller frapper à beaucoup de portes, aller chercher des échecs. L'échec, il est important. Alors, moi, je ne suis pas pour avoir une culture de l'échec hyper grande, de dire oui, il faut échouer. Non, il faut réussir. Après, si on échoue, ce n'est pas grave, c'est des leçons. On doit tirer des leçons de ces échecs. Donc voilà, il y a une réalité, l'entrepreneuriat. Mais il y a aussi une part de rêve. Je pense qu'il faut, il faut raconter les belles histoires, il faut des rôles modèles dans ces quartiers, il faut des personnes qui ont réussi partie de rien. Et il y en a, énormément. Donc voilà, moi, quand j'essaye d'accompagner ou de discuter avec des porteurs de projets d'entrepreneuriat, je leur raconte autant les belles histoires entrepreneuriales, voilà ce que ça donne aussi. Voilà, moi j'ai pu partir au Canada au Startup Fest, pour moi c'était inespéré. J'ai pu aller parler de mon projet devant des ministres, voilà. C'est des choses qui sont assez incroyables.
Attends, donc t'as été au Canada, donc qu'est-ce qui était à trouver de différent, qu'est-ce qu'ils font mieux que nous, qu'est-ce que nous pouvons copier sur eux pour mieux gérer aussi ici?
Ah, le Canada, ils sont très très bons dans tout ce qui est recherche, intelligence artificielle. Donc ils arrivent très bien à mener des projets de recherche avec en le mettant dans des produits. Voilà, c'est une culture qui ressemble beaucoup à la culture américaine. Voilà, même si j'étais au Québec, les Français, on a tendance à croire que parce qu'ils parlent français, alors c'est les Français. Non, c'est une culture très très nord-américaine, c'est très différent. Et voilà, moi j'y suis allé pour le Startup Fest, donc il y a un grand événement startup. J'ai été aussi à des gros séminaires avec tous les réseaux de startup. Voilà, c'est assez fou. Voilà, ça fait une mini Silicon Valley qui est assez sympa.
Et tu nous le conseilles?
Absolument, il faut y aller. Et puis ils sont super ouverts. Ça, c'est j'ai fait les incubateurs là-bas, tout le monde nous disait mais venez dans nos programmes, on vous prend. Voilà, c'est, et il y a une autre culture là-bas au Canada, c'est ils valorisent moins les diplômes.
D'accord.
C'est okay. Ce que vous avez fait dans votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait au niveau associatif, au niveau en tant que citoyen, etc., plus que le diplôme.
Quel diplôme? Ah. Donc voilà. Et alors, donc revenons à la tournée entrepreneuriat pour tous. Alors, est-ce qu'il y a des rendez-vous?
Oui, alors il y a un programme, il y a deux tables rondes, donc une sur les réseaux d'accompagnement, donc il y aura plusieurs réseaux qui vont...
Ça se passe quand?
Alors, ça commence à 13h, à 14h il y a la première table ronde, donc sur les réseaux, sur l'accompagnement. En parallèle, il y aura des ateliers, donc sur le numérique, notamment, sur l'entrepreneuriat au féminin également. La deuxième table ronde, elle sera sur les concours. Et il y aura également les entrepreneurs, donc il y aura, comme je vous le disais, Bakary Camara qui va venir parler de son projet Tip Top de Protège Tibia Connecté, Franck Renaudin et son expérience en tant que président d'ONG. Il y aura aussi Naïma Sheba, c'est l'artisan V25, elle est couturière, maroquinière, elle vient de recevoir un prix d'artisan d'art. Et elle fait des super
nous
produits.
Nous l'avons reçu ici.
Yes. Les meilleurs qui viennent ici.
Ouais.
Et il y aura aussi Lamine Talakela qui a parlé du numérique. Alors il revient du CES de Las Vegas. Il a couvert le CES et il va nous en parler également.
Donc l'info, il y en aura pour tous, donc l'inspiration, donc des idées à avoir et puis à se confronter à d'autres grands penseurs et puis pourquoi pas. Donc ça se passe le vendredi 31 prochain, c'est ça?
Exactement.
Et ça se passe où?
Au centre André Malraux sur les Hauts-de-Rouen, donc c'est ouvert à tout le monde, c'est un événement assez incroyable qui va se passer sur le quartier, donc il faut vraiment venir.
D'accord, ok. Monsieur Damien, est-ce que tu nous proposes un petit morceau?
Écoute, je te propose un morceau qui, je pense, illustre bien le propos de monsieur notre invité Samy, ici présent. Nirvana avec Come As You Are sur le mix des cultures.
As a friend, as 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Nous sommes de retour, il est 17h53, voilà, il nous reste que 7 petites minutes, mais voilà. Comme tout le monde le sait ici sur les Hauts-de-Rouen, Samy, c'est, voilà, c'est un président multicasquette, mais il ne fait pas de cumul. Non, c'est une blague. Mais voilà, donc on a parlé de ce concours, de ce projet, donc la tournée entrepreneuriat pour tous qui se déroule vendredi prochain ici sur les Hauts-de-Rouen, au centre culturel André Malraux, au centre social André Malraux. Donc. Et mais voilà, le Samy il fait pas que ça, donc vous participez, le club participe aussi au concours d'éloquence donc qui se déroule quasiment au niveau national. Et toi et ton club avec tous tes partenaires, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
Alors le concours d'éloquence, alors c'est un projet que l'on a. L'éloquence c'est pour moi quelque chose qui est très 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 forte pour les jeunes. Ça, ce qui servira pour plus tard, voilà, pour essayer de s'en sortir. Je pense que c'est une arme qui est aujourd'hui mal utilisée. On est sur ce projet, on est en train de le monter, là c'est compliqué. On a de la chance, on est aidé parce qu'il y a notamment des films qui sont sortis cette année, dans Banlieusard de Kerry James, il y a des reportages, notamment Eloquentia, qui sont arrivés. Donc lorsque l'on en parle, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. Donc voilà, ça va arriver prochainement. Promis, je reviendrai sur les ondes pour en parler.
Pour en parler.
Et voilà.
Mais juste un mot sur ce projet. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui met en valeur l'art de prendre la parole en public et c'est qui nous sort. C'est pas quelque chose que nous avons tous d'instinct, donc ça s'apprend. Et c'est pas facile de s'exprimer devant des gens, même quand des gens que tu connais et à un certain ton, tu peux pas, et surtout des gens qu'on ne connaît pas. Mais on a, je pense que de participer le club et de préparer des jeunes à participer à de telles choses, c'est tout à ton honneur. Bon, je te jette pas des fleurs, c'est parce qu'on se connaît. Mais voilà, c'est juste pour souligner le travail que tu fais ici avec le club et de ne pas faire que du foot, parce que le foot, ça aide. Donc, mais sur ce... voilà, tout le monde n'est pas né pour être aussi footballeur. On peut aussi être footballeur et puis aimer aussi l'art et la culture. Donc voilà, tu n'as pas oublié ça.
Il faut. C'est, le foot est un outil, enfin, le sport est un outil, mais qui permet de faire beaucoup plus de choses. Donc là, on le voit, on travaille aussi avec les collèges. On met en place le suivi éducatif avec le collège BRAC. L'objectif, voilà, c'est de dire aussi que le foot, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui vous fera vivre toute votre vie. Donc il faut aussi préparer l'avenir. Et les études sont hyper importantes et il faut s'ouvrir parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer, en tout cas.
En tout cas, donc voilà, il nous restait encore que quelques minutes. Et est-ce qu'on peut parler des projets du club futur ?
Bien sûr.
Ouais, donc.
Alors les projets du club, alors ce qu'on aimerait...
Le là, projet c'est... que vous avez avec un peu les partenaires que nous avons tous en commun ici.
Exactement. Exactement, donc on va parler du RHE,
oui.
Hein, les Dragons, avec le fonds de dotation qu'ils ont créé. L'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle foot et devoir.
Foot et devoir.
Foot et devoir, exactement. C'est un suivi après l'école, avec les élèves des écoles primaires du plateau. C'est pouvoir les récupérer après l'école. Donc, les amener au sein de l'immeuble du RHE, hein, ils ont des classes, et donc faire les aider, les accompagner au sens des devoirs, avec un goûter également, un goûter sport-santé, et ensuite, en deuxième partie, aller au gymnase, faire du foot. L'objectif, c'est d'allier les devoirs et le sport, donc, et pouvoir en tout cas progresser sur les deux aspects. Et de le faire régulièrement, donc c'est deux fois la semaine, plus les entraînements qu'ils ont. Donc ils vont pouvoir toucher le ballon quatre fois par semaine, puis avoir les devoirs faits. On espère en tout cas ravir les professeurs du projet.
Est-ce que la mairie répond, elle suit pour l'instant
On s'est assis, voilà, tout le monde s'est assis à la même table, on a pu discuter. Aujourd'hui, on va lancer les périodes de test jusqu'à la fin de l'année. Puis l'année prochaine, on fera le lancement en grande pompe.
Mais finalement, donc voilà, on croise les doigts que l'année prochaine, ça se réalise pour de bon.
Ça se fera, aucun problème.
Donc voilà, il nous reste quelques minutes. Monsieur Damien ?
Écoute, oui, que te dire, mon cher Ousmane, sinon que je suis assez fatigué. En même temps, ça fait plaisir de voir ces gens qui s'activent pour booster un petit peu notre pays, notre quartier, enfin votre quartier plus que le mien, mais enfin le quartier
c'est
en général.
Notre quartier, tu es dedans, tu sors plus.
Je profite de la petite minute qui me reste, malheureusement pas beaucoup de temps pour développer, mais est-ce que on vit une époque qui favorise aussi ces initiatives, cet entrepreneuriat, ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà là et qui couvait et qui demandait juste à ce qu'on lui donne un petit coup de pouce, quoi ?
Sur la partie de l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, notamment dans les quartiers. On le voit un peu partout en France, il y a des dispositifs comme Les Déterminés, qui est l'initiative de Moussa Camara, qui vient de Cergy et qui a, en fait, lors d'une rencontre au Sénat, a discuté avec Pierre Gattaz, l'ancien patron du MEDEF, en lui disant « voilà, j'ai besoin de vous, j'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin d'accompagnement ». Et depuis, ils ont créé ce dispositif qui accompagne à chaque promotion, il y en a eu 12 pour l'instant, des entrepreneurs. Et donc, il y a Mazars qui a suivi, il y a des grosses entreprises qui ont suivi. On voit ces initiatives partout en France se passer, et des entrepreneurs des quartiers qui arrivent à briller, et l'entrepreneuriat se démocratise. Aujourd'hui, créer une entreprise, ça ne vaut plus, il n'y a plus de barrière à l'entrée en fait, à la création d'entreprise, on peut créer une entreprise avec quasiment rien. Et donc je pense que tout le monde veut plus ou moins essayer, et c'est possible en fait, c'est vraiment possible. On peut venir d'un quartier et créer une plateforme numérique, on peut venir d'un quartier et créer une grosse boîte, enfin c'est, les limites sont, il n'y en a quasiment plus. Maintenant je pense qu'il faut quand même de l'accompagnement, parce que forcément on vient pas tous de milieux dans lesquels on a grandi avec des parents entrepreneurs, etc.
C'est le point essentiel, c'est de garder en tête que c'est possible.
Yes.
Mon cher Ousmane.
Et effectivement, donc voilà, il est l'heure de rendre l'antenne. En tout cas, merci Samy d'être venu nous voir.
Merci à vous, merci de l'invitation.
Merci à vous tous, votre présence et votre énergie. Et puis voilà, vendredi prochain, 31, donc voilà, ça se passe à André Malraux, la tournée entrepreneuriat pour tous. Donc voilà, si vous avez des questions ou des idées, c'est là-bas que ça se passe. Damien.
Salut à tous, chers amis autour de la table, chers auditeurs. Salut Samy. Et puis à demain avec Ousmane sur le mix des cultures et sur Radio HDR 99.1.